إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dans cette nouvelle intervention concernant la série de conseils et dévoilement des ambiguïtés, nous allons aborder un sujet important et grave, qui est une calamité qui s'est énormément répandue et qui a affecté un grand nombre de salafis ces dernières années. Et cela à tous les niveaux, que ce soit les prédicateurs et le commun des gens. Ce fléau est celui des déviances des haddadis. Les savants ont éclairci et réfuté avec argumentation les déviances dangereuses des haddadis, leur haine et leur extrémisme dans la critique et l'éloge, dans le fait de congédier, de rendre innovateur et de mettre en garde sans argument valide et valable et sans aucune nécessité. Les savants ont prouvé que les haddadis jugent innovateur toute personne qui commet une innovation, sans différencier entre la règle générale dans l'innovation et son application sur une personne précisément, sans différencier entre celui qui fait la propagande de cette innovation, celui qui la défend ardemment et sans tête, et celui qui fait cette innovation à cause d'une ambiguïté, d'une mauvaise compréhension ou par ignorance. Ils ont prouvé que les haddadis n'observent pas si toutes les conditions sont réunies et les entraves levées, de même qu'ils n'établissent pas la preuve. Aussi, ils ne regardent pas si cette personne a une bonne croyance et un désir de suivre la vérité. Ils n'observent pas ses efforts dans la propagation de la prêche salafie, dans sa défense et dans la lutte contre les innovations, le sectarisme et les égarements. Ils vont même jusqu'à rendre innovateur celui qui ne rend pas cette personne que eux considèrent innovatrice. Et cela est une déviance dangereuse sur laquelle il faut impérativement alerter et de laquelle il faut prendre énormément garde. Car avec grand regret, nous constatons ces dernières années que de plus en plus de salafis prétendant connaître ces déviances des haddadis et le danger de leur méthodologie erronée en sont affectés. C'est avec énormément de tristesse que nous voyons beaucoup de salafis prétendant détester les haddadis, combattre leur ambiguïté et mettre en garde contre eux, tomber dans les mêmes exagérations. Et c'est avec une immense désolation que nous entendons de plus en plus de salafis mettre en garde, critiquer, dénigrer à la manière des haddadis égarés. Comme lorsque l'on en entend certains dire « Celui-ci ne convient pas pour la prédication. Celui-là n'est pas qualifié pour enseigner. » Et nous entendons de tels propos à l'égard de savants, à l'égard d'étudiants en sciences dont les savants ont fait les éloges, à l'égard de prédicateurs que les savants ont avancé et recommandé dans ce domaine. Et ces gens justifient leur mise en garde, leur critique, leur dénigrement par le fait que ce savant, cet étudiant en sciences ou ce prédicateur a des erreurs scientifiques ou des problèmes de comportement. Certes, il n'y a aucun doute que nombreux textes religieux démontrent que l'islam appelle aux bonnes moralités et rejette et blâme ceux qui s'y opposent. Tel que le hadith authentique d'Abi Hurayra radiallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq » « Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles moralités. » Ainsi, il incombe à chacun, que ce soit savant, étudiant, prédicateur ou commun des gens, de combattre sans cesse son âme et l'éduquer aux bonnes moralités de l'islam et à délaisser ceux qui s'y opposent. C'est d'ailleurs pour cela qu'on voit que nombreux de nos savants ont écrit énormément d'ouvrages sur ce sujet, le sujet du comportement dans la recherche de la science, dans l'étude de la science. Cependant, il fait aussi partie des fondements des gens de la sunna et du consensus qui sont connus de tous, que la perfection n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé, et que personne n'est infaillible des erreurs et exempt des péchés, en dehors du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté dans le hadith authentique d'Anas ibn Malik, radiallahu anhu, kullu min Adam khatta, wa khayrul khatta'in at-tawwabun, tous les enfants d'Adam font des erreurs, et le meilleur de ceux qui commettent des erreurs sont ceux qui se repentent. C'est pour ça, d'ailleurs, que Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, a dit: il n'est pas une condition que les pieux et leurs semblables ne commettent pas de péché, ni qu'ils soient infaillibles des erreurs et des péchés, car si c'était le cas, il n'y aurait point de pieux dans la communauté. Mais qui se repent de ses péchés fait partie des pieux, et celui qui fait ce qui expie ses péchés fait partie des pieux. D'ailleurs, celui qui lit les livres de critique et d'éloge trouvera des exemples de savants ayant pu avoir un certain manquement ou des erreurs, tels que les savants le mentionnent dans la biographie du grand imam du hadith, Al-A'mash, Sulayman ibn Mihran, Abu Bistam, ou encore dans la biographie du grand Hafid, Muhammad ibn Muslim, ibn Wara al-Razi, et encore bien d'autres. Et c'est pour cela que le grand érudit de la critique et l'éloge, l'imam al-Dahabi, a dit dans la biographie du grand imam du hadith ibn Khuzaymah, de son magnifique ouvrage Siyar A'lam Nubala, si nous avions rabaissé, déshonoré et rendu innovateurs tous ceux qui se sont trompés dans leur analogie, malgré leur bonne croyance et désir de suivre la vérité, peu de nos imams seraient restés intacts avec nous. Et il ne faut pas comprendre de ces exemples que nous faisons preuve de laxisme ou que nous légitimons ces manquements et ne refutons pas les erreurs. Jamais. Qu'Allah nous en préserve. Ma'adallah. Car lorsque les savants mentionnent ces choses, c'est tout d'abord dans le but d'alerter sur le fait que ce sont des manquements, que ce soit dans le comportement ou des erreurs, et qu'il ne faut pas les prendre en exemple, comme certains malheureusement le font en s'excusant par le fait que tel savant ait commis la même erreur. Non. Ce qu'on appelle « zallat al-ulama ». Il est interdit à la personne de s'excuser et de suivre le savant dans ses manquements et dans ses erreurs. Même si cela, comme on va le démontrer et comme on l'a vu avec les paroles de ces imams, ne le fait, comment dire, pas sortir des gens de la sunna et ne le congédie pas de son rang. D'ailleurs, les savants, à travers cela, démontrent aussi que malgré que ces choses soient des manquements ou des erreurs, elles ne sont pas des causes suffisantes pour légitimer une critique, une mise en garde ou destituer cette personne de son rang. Lorsque les savants ils ont mentionné ces choses dans la biographie de l'imam al-A'mash ou Muhammad ibn Muslim, ils n'ont jamais dit par la suite délaisser la science de ces personnes, ou encore ce ne sont pas des salafis, ou encore bien d'autres propos que l'on entend malheureusement. Ainsi, la critique, la mise en garde, le fait de congédier, de rendre innovateur, sont régis par des critères et des règles que les savants ont institués d'après le Coran et la Sunna authentique et le consensus. Les savants, ils différencient entre corriger les erreurs, critiquer, mettre en garde, congédier et rendre innovateur. Ils n'ont recours à la critique, à la mise en garde, le fait de congédier et de rendre innovateur que lorsque ceci est nécessaire. Et ils ne le font qu'en s'appuyant sur des arguments clairs, valides et valables. Et avant d'y avoir recours, ils observent attentivement si toutes les conditions sont réunies et les entraves levées, et ils établissent la preuve. Les savants distinguent clairement entre les règles générales et leur application sur une personne précisément. Ils dissocient bien entre celui qui fait la propagande, celui qui défend avec acharnement et sans tête, et celui qui fait cela à cause d'une ambiguïté, d'une mauvaise compréhension ou par ignorance. Les savants n'opèrent pas de la même façon avec le salafi et l'innovateur. De même qu'ils ne traitent pas le savant, le prédicateur et le salafi du commun des gens de la même manière. Ils regardent la bonne croyance de cette personne et son désir de suivre la vérité. Ils observent ses efforts dans la propagation de la prêche salafi, dans sa défense et dans la lutte contre les innovations, le sectarisme et les égarements. Aussi, certains justifient leur mise en garde, leur critique, leur dénigrement à l'égard de savants, d'étudiants ou de prédicateurs en disant sa position n'est pas claire. Ou encore, il utilise le voile du silence pour cacher sa mauvaise position. Cela est un point que nous avons déjà démontré avec argumentation et détail dans l'intervention précédente intitulée « La désertion des problèmes méthodologiques entre vérité et fausseté ». Aucun savant n'a conditionné, n'a demandé ou n'a dit que chaque savant, chaque étudiant, chaque prédicateur, chaque personne du commun des gens doit afficher ouvertement une position. De plus, est-ce que cette personne sur qui il lui est reproché de ne pas avoir une position claire est un innovateur établi? Ou encore, est-ce que l'alliance et le désaveu se font sur cette personne, comme on peut le voir aujourd'hui? Si nous n'avons pas le même positionnement choisi par certains, alors ces personnes se permettent de qualifier ces autres avec des sobriquets tels que El Moumeya, ceux qui sont laxistes, ou encore d'autres à l'opposé de Haddadi, ou encore d'autres sobriquets qui ne conviennent pas dans ces situations. Alors que dire quand la personne sur laquelle il lui est reproché de ne pas avoir une position claire est un savant reconnu, est un étudiant en sciences dont les savants ont fait les éloges, un prédicateur que les savants ont avancé et recommandé? Que dire quand la personne à qui il est reproché de ne pas avoir une position claire est un débutant? Il n'a pas de connaissance de ce problème. Toutes les conditions ne sont pas réunies et les entraves levées. La preuve ne lui a pas établi. La situation est pour lui ambiguë et encore bien d'autres choses. Aussi, il faut faire très attention à bien comprendre ces sujets et leurs différences. Car une mise en garde n'impose pas forcément que celui de qui il est mis en garde, on ne peut plus prendre la science de lui. Et que celui-ci est un innovateur. Le fait de mettre en garde contre quelqu'un, car il ne convient pas pour la prédication, l'enseignement ou autre, car il n'a pas les compétences pour l'enseignement, ne veut pas obligatoirement dire que ce n'est pas un salafi. Et avec la permission d'Allah et son aide, nous développerons plus ce point dans la prochaine intervention de cette série de conseils et dévoilement des ambiguïtés qui sera intitulée « La vraie signification du suivi des savants », particulièrement dans les sujets de critique et d'éloge. Car beaucoup, aujourd'hui, se dissocient en avançant les paroles d'un savant sur la position de telle personne, sans même observer si ce frère à qui il est en train de porter ce conseil est un débutant ou pas. Est-ce que cette personne a connaissance de cette situation ou pas? Est-ce que maintenant toutes les conditions sont réunies et les entraves levées? Est-ce qu'il lui a établi la preuve? Est-ce que maintenant cette personne sur laquelle il est en train de lui reprocher de ne pas avoir un positionnement clair est une personne qui est un savant reconnu, un étudiant en sciences dont les savants ont fait les éloges, un prédicateur dont les savants ont avancé et recommandé dans ce domaine? Il n'observe pas si cette personne est une personne sur laquelle les savants ont divergé. Est-ce que c'est un point sur lequel maintenant cette personne effectivement est critiquable mais ne sort pas des gens de la sunna? Elle ne descend pas de son rang de savant ou d'étudiant en sciences ou de prédicateur et ainsi de suite. Et avec les, donc, je veux aussi attirer l'attention sur un point. Je ne veux pas qu'on comprenne de cette réponse argumentée et détaillée que l'on peut prendre la science de chaque personne salafi avancée dans la prédication. Car nos savants ont établi des critères clairs, des conditions et des règles au sujet de qui nous pouvons prendre la science. Tel que le fait de questionner sur cette personne, de regarder chez quel savant elle a étudié. Est-ce qu'elle possède des accréditations, des recommandations ou des éloges de savants? Et encore d'autres critères. et d'autres règles et conditions que nous évoquerons dans une autre série de conseils sur l'étude de la science, avec la permission et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. De ce fait, ici, nous voyons que certains salafis, aujourd'hui, sont affectés par cette méthodologie et ces déviances dangereuses et erronées des haddadis, sur lesquels il faut obligatoirement alerter et prendre garde. Ainsi, je me rappelle ainsi qu'à tous les salafis prédicateurs et communs des gens, la crainte de notre Seigneur Azza wa Jal envers nous-mêmes, envers tous les savants et envers nous tous. De même que je nous enjoins l'enracinement dans la science et plus particulièrement dans le domaine du credo, l'aqid, dans la méthodologie, l'manhaj. De même que je nous enjoins de nous imprégner des paroles et des attitudes des grands érudits de la sunna, tels que l'imam Ahmed, ou encore Ibn Ma'in, Abu Hatim, Abu Zur'a, Al-Bukhari, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i et encore bien d'autres savants. Je nous enjoins de lire avec grande attention et méditation les nombreuses réfutations du grand érudit Sheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali à l'encontre des Haddadi égarés, ou encore le magnifique épître Nuqulat Al-Salafiyya Firrad ala Ta'ifat Al-Haddadiyya, et encore bien d'autres qui ont été écrits sur ces déviances égarées et dangereuses. Demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire voir la vérité et nous accorder son suivi, ainsi que de nous faire voir le faux et de nous en éloigner, il est certes Azza wa Jal celui qui s'en charge et il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.